Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur Radio SBS. Marianne Murat pour vous accompagner pendant une heure et après de nombreux mois d'absence, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, au menu de ce samedi 23 novembre, un épisode d'Europa Voice consacré à la réélection de Donald Trump. Quelles vont être les conséquences de son retour à la Maison-Blanche sur l'Union européenne? Les 27 sont-ils déjà impactés? Et si oui, comment s'adaptent-ils? On en parle avec Nathanaël Bloch. D'un expert à un autre, on entendra ensuite l'analyse de notre historien Romain Fati au micro de Grégory Pless pour notre podcast « L'histoire cachée de l'Australie », un épisode consacré à la prolifération des lapins depuis leur introduction par les colons. Et enfin, pour clore cette émission, un passage par Adélaïde, la directrice de l'Alliance française, Annelise Hénin, nous parle du calendrier de la fin d'année. C'est dans un instant, mais d'abord on commence par la rétrospective. Valentine Saboureau nous raconte ce qu'il s'est passé un 23 novembre, un 23 novembre 2005, il y a 19 ans précisément. Notre rétrospective du jour et on fait un bond de 19 ans dans le passé. Revivons ensemble ce qu'il s'est passé le 23 novembre 2005. Ellen Johnson Sirleaf devient présidente du Liberia, un événement démocratique majeur pour un pays à peine sorti d'une longue guerre civile qui nous est raconté par Valentine Saboureau avec des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Au Liberia, c'est une femme qui remporte l'élection présidentielle. Elle rejoint le cercle très fermé des femmes élues présidentes au suffrage universel. Elles sont 5 à occuper ce poste dans le monde, 2 en Asie, aux Philippines et au Sri Lanka, et 3 en Europe, en Finlande, en Irlande et en Lettonie.
Une femme présidente élue démocratiquement, le Liberia l'a fait. Le 23 novembre 2005, après plusieurs semaines de suspense, la Commission électorale nationale annonce en effet les résultats officiels des élections qui se sont tenues les 11 octobre et 8 novembre dans le pays. C'est Ellen Johnson Sirleaf du Parti de l'Unité qui a gagné avec 59,4% des voix. Une femme, c'est une première au Liberia. C'est même une première en Afrique. Colonie américaine fondée en 1822, le Liberia déclare son indépendance en 1847. La vie politique du pays est ensuite dominée pendant plus de 130 ans par une partie de la population regroupée sous le True Whig Party et composée essentiellement d'anciens esclaves affranchis venus des États-Unis. Il faudra attendre 1980 pour qu'un indigène prenne enfin le pouvoir. Il s'appelle Samuel Doe. Il a fomenté un coup d'État puis instauré un régime dictatorial dont il est écarté par le seigneur de guerre Charles Taylor. Tout cela pour finir assassiné en 1990. Le pays, de son côté, plonge dans le chaos d'une guerre civile qui dure de 1989 à 2003 et se conclut par la mise en place d'un gouvernement de transition sous contrôle étroit des Nations Unies. En 2005, il est enfin décidé que des élections auront lieu dans l'année en présence de nombreux observateurs, dont 15 250 casques bleus. Dans ce petit pays qui compte 3 millions d'habitants à l'époque, 22 candidats se présentent, dont 2 font figure de favoris. Il s'agit du footballeur George Weah, ancien buteur star du PSG et de Monaco, auquel personne ne peut reprocher les errements politiques du passé. Son programme, il le met en chanson et ça fait un carton.
Josh, we are chance, like we are. Avec cette chanson, pour expliquer son programme, George Weah se démarque des autres candidats. Depuis 4 semaines, elle passe en boucle sur les ondes et le message fait son effet. Ils sont de plus en plus nombreux à le rejoindre.
Sa rivale la plus sérieuse, c'est Elaine Johnson Sirleaf, au profil plus traditionnel, et à qui on reproche cependant ses accointances passées, notamment avec Charles Taylor.
Économiste, brillante, formée à Harvard, Elaine Johnson Sirleaf représente la petite élite du Libéria éduquée à l'américaine. Cette femme de tête de 66 ans a fait toute une partie de sa carrière aux Nations Unies ou à la Banque mondiale.
1 350 000 Libériens se sont inscrits sur les listes électorales. Plus de la moitié sont des femmes et les deux tiers ont moins de 38 ans. Lors du premier tour, les résultats confirment les prévisions. George Weah, à la tête du Congrès pour un changement démocratique, son parti, a une bonne avance avec 28,27% des voix. Elaine Johnson Sirleaf du Parti de l'Unité est deuxième avec 19,75% d'entre elles. Tout s'est bien passé, ce qui pousse le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, à souhaiter que, comme au premier tour, le deuxième se déroule de manière pacifique et ordonnée. Le 8 novembre, finalement, retour aux urnes. Le 23 novembre 2005, le Libéria a un président, ou plutôt une présidente. Elaine Johnson Sirleaf a gagné largement et par souci d'apaisement, George Weah a abandonné l'idée de contester les résultats. C'est une victoire pour le pays qui entre dans une nouvelle phase de reconstruction dans un contexte de grandes difficultés.
Ici, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les épidémies de choléra, de fièvre jaune et de paludisme font des ravages. La situation est très préoccupante.
Elaine Johnson Sirleaf prête serment le 16 janvier 2006 avant de prendre ses fonctions. Elle est réélue pour un deuxième mandat, 6 ans plus tard.
Les murs se souviennent-ils de nous ?
La vie était tellement plus belle,
14 boulevard Saint-Michel.
Icar et Axel Red qui chantent d'autres que nous. Vous écoutez SBS French, messieurs, dames, le programme en français de la radio SBS. On marque une très courte pause et après, comme promis, c'est Europa Voice avec un épisode consacré à la réélection de Donald Trump. Quelles conséquences pour l'Union européenne ? Réponse dans un instant.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Europa Voice numéro 151. Messieurs, dames, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous êtes avec Marianne Murat qui remplace Christophe Mallet. Et ensemble, nous sommes avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Marianne.
L'élection, ou la réélection hein, plutôt, de Donald Trump à la Maison Blanche. Et ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est qu'il n'est même pas encore arrivé à la Maison Blanche, qu'il fait déjà trembler l'Europe, Nathanaël. On le sait, je ne prends pas beaucoup de risques en le disant, Donald Trump fait peu de cas de l'Union européenne. Il est assez méprisant à son égard, il a une connaissance plutôt limitée du fonctionnement de ses institutions. Alors, quel va être l'impact de ce qui se passe aux États-Unis sur l'Europe, Nathanaël ? On pense notamment à des conséquences pour l'économie et pour l'industrie européenne.
L'Europe, les Européens s'étaient préparés au retour de Donald Trump dans les différents scénarios qui ont circulé à Bruxelles et dans les chancelleries européennes et au sein des exécutifs. Par contre, ce qui est aussi sûr, c'est qu'ils ne savent pas vraiment comment cela va se passer. Donc il y a quand même une part d'imprévisible malgré la préparation des Européens. Ce qui est aussi sûr, Marianne, c'est que sur quasiment l'ensemble des thématiques et objets chauds d'actualité politique, la réélection de Donald Trump aura un impact. Je pense à l'énergie, notamment, et la question des énergies fossiles. Je pense évidemment au climat et au climato-scepticisme de Donald Trump. Et puis, le commerce et le America First, qui est peut-être ce dont on parle le plus et avec le plus d'acuité ces derniers jours, notamment par rapport aux tarifs douaniers et à l'augmentation des tarifs douaniers que le président Trump voudrait imposer aux produits, non seulement en provenance de Chine, mais aussi en provenance de l'Union européenne. Donc en fait, sur tout un tas de problématiques, si ce n'est l'ensemble, la réélection de Trump, à défaut d'inquiéter les Européens, aura au moins le mérite de les faire réfléchir ensemble à la manière de s'accorder pour entretenir des relations avec le nouveau président américain.
Vous avez évoqué l'augmentation des droits de douane, hein. C'est une violation des règles dictées par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pourtant, ça aboutirait pas forcément à des sanctions contre les États-Unis, ça.
Non, ça n'aboutirait pas forcément à des sanctions contre les États-Unis. La politique de Donald Trump en matière de commerce, elle a toujours été très agressive. Ce qui est plus surprenant, c'est que en fait, les États-Unis et l'Europe, Marianne, sont les premiers partenaires commerciaux de l'un et l'autre. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen a dit, moi je trouve ça que ça a beaucoup de signification, elle a parlé d'un marché commun de 800 millions de personnes. C'est-à-dire qu'elle a quasiment intégré ensemble la population de l'Union européenne et celle des États-Unis pour justement montrer au président américain l'importance que ces échanges commerciaux ont entre les deux entités. Sur cette question de l'augmentation des droits de douane, Trump avait déjà en fait augmenté ses droits de douane sur des produits en provenance à destination des États-Unis. Là, l'idée, c'est de rajouter encore une augmentation à l'augmentation sur ces importations aux États-Unis et d'une certaine façon aussi faire payer à l'Europe d'autres décisions stratégiques. Donc, ça n'a pas l'air de beaucoup inquiéter Donald Trump, les récriminations de l'OMC, mais de la même manière que Donald Trump a une relation très conflictuelle avec les organisations mondiales. Là, on a parlé de l'OMC, je pense également à l'OTAN, où on le sait déjà, Donald Trump reproche aux Européens de ne pas contribuer assez au financement de l'Alliance transatlantique. Donc en fait, c'est une pièce du puzzle dans un ensemble plus grand, et c'est pour ça que la réponse des Européens, non seulement elle doit se constituer assez rapidement pour pouvoir faire face à cette nouvelle donne géopolitique, mais ça relance la sempiternelle question de la force politique de l'Union européenne pour être capable de traiter dans un monde multipolaire. Parce que là, on parle des États-Unis, mais en fait, l'élection de Trump, ça n'est que la confirmation du retour des empires, d'une certaine façon, avec la Chine en face, les États-Unis. Et donc, est-ce qu'il existe cet empire de l'Union européenne ?
Oui, parce que depuis qu'il a été réélu, on lit partout, c'est l'occasion pour l'Union européenne de développer une industrie forte, une industrie pérenne. Mais ça, c'était déjà le cas avant l'élection de Donald Trump.
La question, elle se pose, Marianne, encore avec plus d'acuité quand on connaît les positions isolationnistes aussi de Donald Trump. Dans un monde, j'allais dire, où les échanges fonctionnent plus normalement, où le climat politique est apaisé, la question de la réponse coordonnée de l'Union européenne a peut-être moins d'acuité. Mais là, en l'occurrence, la question qui se pose, c'est si l'Europe, justement, veut être, et les pays européens, en fait, parlons des pays européens eux-mêmes, si les pays européens veulent être compétitifs, notamment, on a parlé du volet commercial, vis-à-vis des États-Unis, la réponse ne peut être qu'européenne, rien qu'en termes de taille du marché. C'est 350 brouettes, millions pardon, de consommateurs aux États-Unis. L'Europe, c'est 550 millions. Donc, de toute façon, la réponse, elle n'est cohérente qu'au niveau de l'Union européenne. Et c'est pour ça que, avec le retour de Trump, avec le retour de l'isolationnisme américain, avec le retour aussi d'une certaine, encore une fois, agressivité vis-à-vis des règles commerciales et des règles d'échange en général, ce qu'on appelle le level playing field, Marianne, c'est-à-dire une situation où tous les acteurs, finalement, respectent les règles du jeu. Là, ce n'est pas le cas avec Donald Trump. Et donc, c'est pour ça que cette réponse européenne, elle est d'autant plus importante. Et c'est encore une fois l'occasion pour l'Union européenne de ne pas manquer cette marche de l'intégration et d'avoir une réponse coordonnée. Parce qu'on le sait aussi, l'Union européenne est capable de le faire. Alors, on a été très euphorique pendant la période du Covid avec justement la réponse coordonnée de l'Union européenne sur la provision des vaccins. On a été aussi assez euphorique avec Christophe lors de la réponse vis-à-vis de l'Ukraine et l'aide coordonnée à l'Ukraine. Donc on sait que l'Europe est capable de le faire, mais on sait aussi que d'un autre côté, sur les questions par exemple diplomatiques, sur les questions migratoires, l'Europe a encore du chemin à faire justement pour pouvoir peser face à ces grandes puissances. Là on parle des États-Unis, mais on parle aussi, si on parle juste des barrières commerciales, on parle aussi de la Chine, où là on dépasse largement le milliard. Donc c'est pour tout ça finalement que l'Europe a ce besoin vraiment d'être encore plus intégrée politiquement.
La Chine, parlons-en. Trump appelle l'Europe « mini-Chine ». Ça va être quoi les réactions européennes et chinoises face à ces changements économiques dont on vient de parler? La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis aura forcément des répercussions directes sur le marché européen.
La situation entre la Chine et les États-Unis, non seulement elles auront des répercussions directes sur le marché européen, mais elles auront des répercussions aussi dans d'autres domaines. Je pense notamment à la défense. Et c'est ça qui est, je trouve, aussi intéressant. Et l'Europe fait face à son histoire, c'est que l'élection de Trump, moi je veux la voir pour les Européens finalement comme une opportunité d'aller plus loin sur ces questions-là. Pour prendre l'exemple de la Chine que vous avez mentionné, l'Europe a déjà pris le pas justement de trouver d'autres partenaires commerciaux et de développement sur le sous-continent asiatique. Une des premières mesures d'Emmanuel Macron en 2017, c'était la stratégie Indo-Pacifique. Peut-être sa première grande sortie médiatique vis-à-vis de la politique diplomatique et extérieure française. C'est quoi la stratégie Indo-Pacifique d'Emmanuel Macron et donc de l'Europe? C'est contourner les routes de la soie habituelles avec la Chine et avoir un axe de développement Paris, New Delhi, Canberra, Pacifique. Donc c'est déjà dans l'agenda des Européens de trouver d'autres partenaires commerciaux avec la même ampleur, hein, si on parle du marché chinois comme un marché d'un milliard de personnes, c'est la même chose pour le marché indien. Donc l'Europe est déjà dans ce processus de contournement, de trouver d'autres solutions. Et l'Amérique de Trump donne une autre occasion pour l'Union européenne d'asseoir un leadership et de trouver des solutions de développement, que ce soit dans les domaines de la défense, de l'économie, de prendre le lead sur le climat. Ça donne cette opportunité-là à l'Union européenne et elle doit s'en saisir.
Il y a deux points que je voudrais encore aborder sur cette thématique, Nathanaël. Le premier, vous en avez déjà dit un mot, l'Ukraine. Donald Trump disait que s'il était élu président, il résoudrait le conflit en 24 heures. Bon, évidemment, non. Qu'en est-il réellement?
Alors, c'est, c'est une très bonne question. Déjà, Trump, il arrive aussi à un moment post-campagne où maintenant il doit faire face à la réalité du terrain. Et vous l'avez très bien dit, hein, il n'est pas encore en poste, que déjà on attend beaucoup de lui à l'heure où Biden fournit à l'Ukraine pour la première fois des missiles de longue portée. Donc sur l'Ukraine, c'est une question assez délicate parce que Trump, il va aussi devoir faire avec les dernières décisions du mandat de Biden. Et cette décision-là de missiles longue portée, elle a des impacts énormes parce qu'on le voit, la stratégie nucléaire de la Russie est en train de changer aussi. Donc évidemment, il ne va pas résoudre ce conflit ukrainien, mais moi je dirais qu'il faut surtout attendre la fin du mandat de Biden pour pouvoir vraiment comprendre de quelle manière Trump va pouvoir, lui, être un acteur de la résolution de ce conflit, parce que là, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'autres développements beaucoup plus catastrophiques avec les dernières décisions à la fois de l'administration Biden, mais aussi les réactions russes.
Oui, il n'est pas encore en poste, mais il y a déjà des décisions qui ont été prises. Vous venez de parler de l'administration Biden, l'administration Trump, parlons-en, avec la nomination d'Elon Musk. Elon Musk, hein, qui divise largement au sein du Parlement européen, il va être au cœur de la relation entre les États-Unis et les 27. Est-ce que c'est une forme de crise diplomatique à gérer pour l'Union européenne?
Ce n'est pas une crise diplomatique, encore une fois, à l'heure actuelle, parce que Trump, pour l'instant, en fait, finalement, c'est de la cuisine interne. Et l'Union européenne n'a absolument pas son mot à dire dans la composition du gouvernement et de l'administration Trump. Alors effectivement, les choix qui ont été faits d'Elon Musk, mais également d'autres, notamment à la santé, à la justice, etc., elles donnent des grandes orientations. Mais ce serait un petit peu présomptueux de la part de l'Union européenne de juger déjà, avant les faits, les ministres, les hauts fonctionnaires et les grandes personnalités de l'administration Trump. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, l'Union européenne et les pays de l'Union européenne ont réagi, notamment à la nomination d'Elon Musk. On l'a vu avec Kasbarian en France, qui a un petit peu loué les mérites de ce ministère de l'efficacité et de l'efficience. Moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est très drôle, c'est que au-delà finalement du titre et au-delà de la personnalité, j'ai entendu chez nos confrères d'une radio privée, bleue, je crois, David Lisnard, qui disait qu'aux États-Unis, je trouvais ce mot assez juste parce que ça parle de la philosophie, en fait, de politique. Aux États-Unis, il y a un ministère ou un gouvernement de l'efficience, de l'efficacité. En France, on parle encore du plan. Et ça, c'est ça que je trouve intéressant, finalement, plus que la nomination d'Elon Musk en soi, c'est de voir comment l'Union européenne, et la France, là, en l'occurrence, et les États-Unis considèrent de manière diamétralement opposée le rapport à l'administration publique, le rapport au monde de fonctionnaires, du fonctionnariat, etc. Et ça, je trouve que ça va être intéressant à suivre, de voir comment quelqu'un qui est un businessman
avéré,
mais même plus qu'avéré, je veux dire extra-talentueux, va pouvoir avoir un impact au sein de l'administration américaine et comment les Européens, encore une fois, les Européens, ils n'ont rien à dire sur la nomination d'Elon Musk et des autres. Ils vont devoir traiter avec. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, je trouve finalement assez infantile, et je prends pour le coup un peu position, les prises de position d'officiels qui annoncent quitter Twitter avec cette nomination. C'est pas la question, là. La question, elle est pas de savoir si il faut ou pas quitter Twitter parce qu'Elon Musk nommé. Non, la question, elle est de savoir, c'est une décision souveraine de Trump et des États-Unis. C'est quoi la position en face de l'Union européenne et comment est-ce qu'on construit une alliance, une collaboration et surtout, encore une fois, moi je reviens toujours à ce même point, et une réponse encore plus forte et coordonnée de l'Union européenne. Ça ne sert à rien de critiquer les nominations de Trump, elles sont ce qu'elles sont, c'est un choix souverain et des Américains et de Trump. Par contre, il y a des plaies à penser du côté de l'Union européenne et il y a des domaines encore entiers qu'il faut renforcer, qu'il faut coordonner entre les États membres pour que justement l'Europe, elle n'est pas obligée d'être alignée sur les positions américaines, mais elle doit être capable d'avoir une réponse forte et peser dans la balance pour ne pas juste être reléguée dans un monde multipolaire aux petits acteurs dont on ne va plus prendre en compte les considérations, les avis et les opinions.
Merci beaucoup Nathanaël.
Merci Marianne.
Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Europa Voice, messieurs, dames, numéro 151. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À bientôt.
Je vous parle d'un temps. Il me donne le sourire. Et ce pincement extrême, la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème.
Grand Corps Malade qui remixe la bohème de Charles Aznavour dans ce titre intitulé « À chacun sa bohème ». On change de décor, on en parlait en sommaire, Romain Fati et Grégory Pless discutent de la prolifération des lapins en Australie. Après leur introduction par les colons, l'histoire cachée des lapins en Australie, c'est parti.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Comme d'habitude, on retrouve notre historien préféré, Romain Fati. Bonjour.
Bonjour.
Alors Romain, avec vous aujourd'hui, on va parler d'un animal qui, avec le koala, est sans doute l'un des plus mignons du monde, mais qui malheureusement s'est avéré être une véritable catastrophe pour l'Australie. On parle des lapins. Alors, Romain, le lapin, ça n'est pas une espèce endémique de l'Australie. Les premiers ont été amenés par les Anglais dès le début de la colonisation. Il y en avait à bord de la fameuse première flotte qui est arrivée dans la baie de Sydney le 26 janvier 1788. Et au tout début, donc quand ces lapins sont acheminés avec les premiers colons et les premiers convicts, L'idée, c'est d'avoir une source de nourriture, en l'occurrence une source de protéines. Et ils sont placés dans les enclos, on les élève, ils se reproduisent et puis on les mange quand ils sont adultes. Ça a l'air à peu près sous contrôle, sauf qu'à peine 40 ans plus tard, c'est déjà la grosse catastrophe en Tasmanie, il y en a partout.
Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il est important de rappeler que quand la première flotte arrive, hein, donc il s'agit une onzaine de bateaux avec les déportés de Grande-Bretagne, hein, les convicts sur lesquels on a fait plusieurs épisodes, il faut effectivement les nourrir. Et donc, le lapin, c'est absolument idéal parce que la gestation hein, pour une femelle, c'est à peu près 31 jours. Donc, vous pouvez avoir des portées entre 1 et 10 lapros en 31 jours, et ceci plusieurs fois par an. Donc, le système reproductif des lapins fait que, effectivement, comme les poules, c'est une source de protéines très importante. Hein, la poule, par exemple, produit un œuf tous les 26 heures. Donc, ça, c'est effectivement petit, c'est transportable, et ça vous assure une source de protéines à un moment où il y a tout à faire hein, quand ces colons arrivent. Et donc, effectivement, les lapins viennent. Mais alors, vous avez des espèces de lapins différentes qui sont emmenées, et certaines ne sont pas vouées à proliférer ou à survivre dans des espaces différents des espaces européens. En revanche, en Tasmanie, effectivement, il y a des lapins qui s'évadent, d'autres qui sont libérés. Et en quelques années, vous avez plusieurs milliers, puis plusieurs dizaines de milliers de lapins. Alors, la Tasmanie étant une île, ça ne communique pas avec la grande île qu'est l'Australie également. Si bien que le phénomène est limité à la Tasmanie, et vous avez des journaux qui font état qu'effectivement c'est en train de faire des dommages aux pâtures hein, qui sont réservées prioritairement aux moutons et qu'il faudrait commencer à les abattre, ce que les habitants de Tasmanie font. Mais à cette époque-là, il n'y a pas encore ce problème-là sur l'Australie continentale, entre guillemets, et certainement pas en Nouvelle-Galles du Sud où les premiers colons sont arrivés.
Et alors, justement, le continent est frappé par ce problème quelques décennies plus tard. Il faut attendre encore un petit peu. On continue d'amener des lapins en Australie depuis l'Europe, mais cette fois plus seulement à des fins d'élevage, puisque bah, on imagine bien que près d'un siècle après les premières installations, les premières fermes, les premiers élevages de moutons, etc., sont bien en place et qu'on arrive à se nourrir correctement. Mais on ramène des lapins pour les chasser. Et donc, ça veut dire qu'ils sont relâchés immédiatement dans la nature. Vous avez mentionné les impressionnantes capacités reproductives des lapins. Et ça pose un gros problème, puisque moins de 10 ans après cette deuxième introduction, il y a des lapins vraiment partout, partout, partout en Australie.
Oui, alors cette seconde introduction, enfin il y en a eu plusieurs, mais celle dont vous parlez par le fameux Thomas Austin, il faisait partie de sociétés d'acclimatation. Et donc ce n'est pas la première espèce avec laquelle il avait joué, ça c'est une parenthèse. Là en l'occurrence, il dit bon, je vais prendre 24 lapins, et puis je vais les libérer sur ma propriété pour pouvoir aller chasser avec mes amis, chasse qui se produit en France également, mais qui est très commune en Grande-Bretagne à l'époque. Mais les lapins qu'il fait venir sont des lapins qui s'acclimatent très très bien aux conditions australiennes. Si bien que le type de lapin qui avait été emmené en Nouvelle-Galles du Sud n'avait pas posé de réel danger. Or, cette espèce-là, qui est libérée donc en 1859, vous avez 24 lapins en 1859 et près d'un demi-milliard quelques décennies plus tard. C'est des chiffres absolument monumentaux.
Et on imagine bien, effectivement, les conséquences sur, comme vous le disiez tout à l'heure, les pâturages, les exploitations agricoles et peut-être même aussi, d'ailleurs, juste sur la nature australienne des espèces florales, par exemple, n'étaient pas habituées à être grignotées par un nombre aussi important d'herbivores.
Complètement. Il faut bien comprendre que, par exemple, en Europe ou en Amérique du Nord, les populations de lapins, elles sont importantes. Mais elles ont toute une gamme de prédateurs naturels qui peuvent limiter leur progression. En Australie, c'est pas le cas. Hein. Le koala ou le kangourou, il va pas aller se nourrir de lapins. Alors le dingo, je veux bien, mais il n'y en a pas suffisamment et pas partout. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une espèce qui est extrêmement prolifique, qui n'a pas de prédateurs. Et donc, c'est une des propagations en termes numériques qui est les plus importantes pour tout mammifère observé. C'est absolument hors de proportion de ce qu'on peut s'imaginer. Et l'impact écologique que ça a est absolument majeur. Pourquoi? Parce que les lapins, ça creuse des terriers, ça détruit les terres, qu'elles soient agricoles ou non. Et puis surtout, ça mange.
Oui.
Parce que quand vous êtes 24, ce n'est pas un problème, mais quand vous êtes près de 600 millions, les ressources que vous utilisez sont des ressources qui ne vont pas à la fois aux bêtes d'élevage importées par les colons blancs, mais qui ne vont pas aux animaux endogène de l'Australie.
Alors,
c'est un impact écologique.
Je me permets de préciser par rapport à ça, j'ai lu cette information il y a quelques jours. Apparemment, 15 lapins mangent autant d'herbes par jour qu'une vache.
Alors, je suis pas vétérinaire, je peux pas confirmer, mais ça paraîtrait assez logique dans la mesure où ils défèquent assez fréquemment. Mais le fait est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez une couverture, un tapis de lapins qui va se mettre sur des espaces et grignote à la racine. Quand vous avez un cheval ou une vache qui va sur une touffe d'herbe, généralement, elle est coupée à 4, 5, 6 cm du sol. Donc, l'herbe peut se régénérer. Les lapins mangent quasiment au ras du sol. Si bien que la pâture ne peut pas se régénérer, et par ailleurs, une fois qu'elle n'est pas régénérée, vous avez de la poussière partout. Vous avez des terres qui deviennent infertiles et qui sont asséchées. Donc c'est une catastrophe écologique, non seulement pour les autres espèces australiennes, pour les terres également, et donc l'érosion de ces dernières également. Mais là, ce qu'il faut penser, c'est que c'est aussi une catastrophe économique et politique. Dans les années 1880, le problème majeur en Australie, ça va vous paraître peut-être surprenant, mais ce sont les lapins. Pourquoi? Parce que c'est une époque où il n'y a pas encore d'impôts sur le revenu tel qu'on les connaît aujourd'hui, et pas de TVA, etc. Si bien que la manière dont le gouvernement produit des revenus, c'est par l'allocation des terres. Et les fermiers disent au gouvernement, écoutez, c'est pas compliqué, vos terres, elles valent plus rien, on va plus les louer, et vous allez perdre de l'argent. Donc, branle-bas de combat, et le premier, le premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Henry Parkes, qui est un des pères fondateurs aussi de la Fédération australienne plus tard, fait tout son possible pour diminuer ses lapins. Donc, des battues sont organisées, le gouvernement donne de l'argent par peau de lapin, un peu comme ça se faisait dans les campagnes françaises pour les taupes aussi. Et pour vous donner un exemple que j'ai trouvé, en un an, près d'une petite, toute petite ville dans Nouvelle-Galles du Sud qui s'appelle Wilcannia, dans un espace rural, c'est pas immense, hein. Vous y êtes allé pour vos épisodes dans le bush. En 12 mois, 782 000 pots de lapin ont été présentés aux autorités, près d'un million, vous imaginez? Donc en fait, le gouvernement est en train de se ruiner avec une méthode peu efficace, parce que quand on vous ramène 1, 2, 3, 5, 6 millions, 10 millions de pots de lapin, un, ça vous coûte cher, et deux, ça ne réduit pas assez la population de lapins. Donc, c'est totalement inefficace.
Oui, alors juste pour donner un peu, vous disiez tout à l'heure que vers 1860-1870, on était déjà à 600 millions de lapins. J'ai vu qu'en 1910, on était à 2 milliards. Donc, effectivement, même quelques centaines de milliers ici et là, on comprend bien que ça change pas grand-chose au problème. Alors, vous avez mentionné le fait qu'il y ait des battues et au-delà de la technique de rembourser la peau de lapin qui doit coûter très cher, juste le nombre de balles nécessaires, ce serait une fortune aussi, plus que certaines guerres peut-être. Alors après, on a pensé évidemment à l'empoisonnement. Et puis, vers la fin du 19e siècle, donc, il y a vraiment les grands moyens qui sont employés et on décide eh bien, de contenir l'avancée de ces lapins en installant des immenses barrières. Alors, il y en a eu dans différentes parties de l'Australie, mais je voudrais qu'on parle sûrement de la plus connue d'entre elles, la fameuse Rabbit Proof Fence, qui a été posée en Australie occidentale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette fameuse barrière et nous dire si elle a été efficace?
Oui et non. Assez rapidement, certains fermiers décident de clôturer leurs propriétés. Il s'agit de très, très grandes propriétés, donc c'est un coût d'investissement assez important. Pour ceux d'entre vous, auditeurs, qui connaissent les lapins, vous savez bien qu'un lapin, ça creuse. Donc votre barrière, votre grillage, il doit être au-dessus du sol, mais aussi en dessous. Donc il faut creuser. Donc voilà, ça coûte cher, c'est un processus assez important. Mais là où, sur de bonnes terres qui étaient dévastées par des lapins, certains ont posé des barrières, le gouvernement s'est aperçu qu'effectivement, ça marchait. Parce qu'il suffisait d'une sécheresse et de lapins qui ne pouvaient pas sortir de la propriété pour que tous les lapins meurent et que, en quelques temps, en quelques saisons, la propriété soit totalement régénérée. Donc en fait, ils se disent, mais si ça marche à l'échelle de propriété, pourquoi ne pas le faire à l'échelle de région, voire d'État? Le Queensland essaie, par ailleurs, la barrière sert aussi contre les dingos, et l'Australie occidentale essaie également et construit en réalité, il y a trois grandes barrières contre les lapins, mais aussi ça permet de contrôler les populations d'émeus. Et donc, effectivement, ça réduit les populations de lapins, mais ça coûte cher à entretenir. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas totalement efficace, hein, parce que certains lapins peuvent sauter au-dessus ou creuser en dessous. Et donc, ça contient le mal, mais pas suffisamment pour que le problème soit totalement traité. Si bien qu'en fait, à la fin du 19e, ce qu'on espère, c'est qu'une solution chimique ou biologique ou bactériologique, pardon, puisse être trouvée.
De l'humain, on comprend les choses qu'on traverse en au travers, en vers ou bien en prose. Regardez-moi de travers, je prendrai la pose. Moi je les aime, mes travers. Donnez les vôtres, j'en fais l'endroit et l'envers. Analyse la chose en comprenant tes travers. Viendra la métamorphose.
Impossible de ne pas reconnaître ce style et cette voix qu'on entend partout, tout le temps en ce moment. Zao Tsagazan sur les ondes de Radio SBS avec son titre « Au travers ». Allez, on termine cette émission dans le South Australia où la directrice de l'Alliance française d'Adélaïde nous parle du calendrier de la fin d'année. Elle est interviewée au micro de Jean-Noël Ducasse.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Annelise Hena, qui est la directrice de l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour et bienvenue sur SBS en français.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Ravie de vous retrouver.
Et on va peut-être commencer par ce rendez-vous du samedi 7 décembre. C'est la journée porte ouverte chez vous. C'est l'occasion pour tout le monde de venir découvrir l'Alliance française d'Adélaïde sur le plan culturel, sur les cours que vous offrez et beaucoup de choses sur la France, j'imagine.
Exactement. Oui. Alors, c'est découvrir ou même redécouvrir. On est content de retrouver certaines personnes qui nous auraient un peu oubliées. On fait effectivement pour les débutants une classe, un cours d'essai à deux horaires, à 2 heures et à 4 heures. Donc là, c'est une opportunité effectivement pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Alliance. On proposera des promotions, on a des activités pour les enfants avec des activités manuelles, des coloriages, ce genre de choses, un petit film, et une heure du conte, donc pour avoir des petites histoires. Et on va aussi mettre en accès libre nos casques en réalité virtuelle. Alors bien sûr, on accompagnera. Mais pour visiter une petite partie de France, je vous en dis pas plus pour l'instant. Et évidemment, on fera des crêpes et on aura quelques boissons à offrir pour tous ceux qui viendront nous rendre visite.
Alors, c'est une tranche de 5 heures, donc c'est de 12h30 à 17h30.
Exactement.
Et puis, je reviens légèrement en arrière, c'est le vendredi 29 novembre, chez vous, à l'Alliance française, vous avez le French Wine Trail. Expliquez-nous tout cela.
Oui, alors on a commencé l'année dernière, en fait, comme une route des vins, si vous voulez, en France. Et donc on a eu plusieurs arrêts. On avait commencé l'année dernière avec le Beaujolais. On a eu cette année le Languedoc-Roussillon, des vins de Loire. Il m'en manque un que j'ai plus en tête. Et là, comme en plus on se rapproche des fêtes, on s'était dit que ce serait sympa de s'arrêter dans la région de la Champagne. donc du champagne. Donc on va avoir en dégustation du champagne, bien entendu. Donc c'est le 29 à 18h30. Et en plus, on a toujours une petite explication sur le terroir et sur la région. Donc ça permet de découvrir à la fois la boisson, mais également la région.
Et donc, c'est chez vous, dans les locaux de l'Alliance à Wayville.
Tout à fait.
Et puis, j'imagine que les rendez-vous traditionnels se poursuivent en cette fin d'année avec, par exemple, les meet-ups en français.
Exactement. Alors, on aura le club de conversation qui se réunit comme tous les mercredis jusqu'au 4 décembre, qui sera leur dernier rendez-vous où ils font un petit déjeuner de Noël tous ensemble. Pour ce qui est des cafés croissants, on s'approche du dernier, qui est le 29 novembre, parce que c'est toujours le dernier vendredi du mois, et on se doute que pendant les grandes vacances, on aura un petit peu moins d'habitués. Donc là, c'est le 29 novembre à Market Street Café, à 8h. Et on a encore le trinquon en français, il y en avait un hier soir, et le dernier sera le 17 décembre à 18h. Donc là, on avait changé de lieu assez récemment. On est maintenant au passage sur Hindmarsh Square, où donc chacun peut venir. On est très bien accueillis au passage.
Et ensuite, les rendez-vous traditionnels comme le ciné-club, le book-club, et ça continue ?
Alors, le ciné-club, on a eu vendredi dernier notre dernier de la saison. On reviendra en 2025 avec de nouveaux films. Le book-club, il nous reste deux rendez-vous. La semaine prochaine, parce qu'on a eu notre gentille animatrice qui était malade quand elle avait dû le faire, donc il nous reste mercredi prochain avec un film à la scène à la ville autour de l'opéra, et le 12 décembre avec le livre autour du livre 3 de Valérie Perrin.
Et en 2025, peut-on s'attendre aux apéros scientifiques et d'autres conférences ?
On espère effectivement que les apéros scientifiques vont revenir. On est en train de les remettre en place. On a eu une petite pause pour cause de remaniement d'équipe côté AFRAN. Donc on est en train de travailler dessus pour avoir de nouvelles propositions pour la rentrée. Les conférences, rien n'est encore fixé, mais on en aura, c'est sûr. Et plein d'autres événements. On travaille encore sur la programmation de l'an prochain.
Et peut-être un petit mot sur les cours, peut-être un petit bilan de 2024. Ça a bien marché chez vous ?
Oui, on est très content de 2024. On espère, on a quelques petites nouveautés pour 2025. Nos inscriptions sont déjà ouvertes d'ailleurs. On va proposer des cours un petit peu plus longs sur une période plus courte, certains de nos étudiants souhaitant aller plus vite dans leur apprentissage. Donc on va avoir des cours de 2h30 par semaine sur 8 semaines, ce qui nous permettra de faire un niveau de plus dans l'année. Donc, au lieu d'en faire 4, on va en faire 5. Donc ça va être pour tous les débutants et nos cours de conversation. Dans les nouveautés, et puis on met en place des petites choses pour aider les étudiants qui s'absentent. On va un système de catch-up lessons, par exemple. Donc ça c'est dans les petites nouveautés qu'on peut découvrir dès maintenant.
Et j'imagine qu'au mois de janvier, il y aura les summer courses pour la rentrée.
Oui, alors ils sont pas encore programmés, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Ils vont commencer le 15 janvier, et on aura différents ateliers. On fait souvent des ateliers de révision à cette occasion-là, de travail sur la phonétique, sur quelques points grammaticaux un peu plus spécifiques. Mais pour l'instant, oui, je ne peux pas trop vous en dire plus.
Merci et à bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bye.
Je parlais de voix reconnaissable, celle-ci l'est tout autant. Philippe Catherine avec sa chanson « Total à l'Ouest », l'un des tubes de son dernier album « Zouzou » sorti cette année. Voilà messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un très beau samedi après-midi. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.